Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette grâce, qui nous fait cette grâce de pouvoir le célébrer avec nos frères du groupe de louanges. Pour notre méditation, notre encouragement ce matin, c'est toujours dans la suite des thèmes que l'Église, voilà, que nous avons tous ensemble convenu d'aborder. Et après avoir abordé à plusieurs dimanches le thème de la parole de Dieu, et ça a été encore rappelé dimanche dernier par notre frère Adrien, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons rentrer dans une série sur le service de Dieu, servir Dieu, le service de qualité. Comment servir le Seigneur, comment continuer de servir le Seigneur en progressant chacun dans notre service. N'est-ce pas? Tout en sachant que notre premier service, c'est vraiment notre vie au Seigneur. Alors, commencer cette méditation par une illustration. Enfin, vous savez que Jésus, dans les évangiles, régulièrement, pour passer un enseignement, prenait une histoire de la vie courante. Il la mettait en scène et ensuite il donnait un enseignement. Et dans la prédication, nous faisons aussi pareil. Nous prenons des illustrations qui peuvent nous parler. Et nous essayons de nous encourager au travers de la parole de Dieu. Le chrétien thermomètre ou le chrétien thermostat. Ça paraît bizarre, hein, n'est-ce pas? Un thermomètre ou un thermostat. C'est un serviteur de Dieu français qui s'appelle Danny Amo. Dans une de ses conférences ou dans l'un de ses livres, je ne sais plus, qui s'appelle « Réveil personnel », il donne l'image, enfin, il redit l'expérience que beaucoup connaissent ou que certains ne connaissent pas. Si vous plongez une grenouille dans une eau très chaude, elle va par instinct de conservation sauter et sortir de la bouilloire. C'est normal, n'est-ce pas? Par contre, l'expérience contraire, si vous la mettez dans de l'eau, et que vous commencez à bouillir l'eau à petit degré, malheureusement la grenouille elle ne va pas sortir de l'eau. Peut-être par facilité elle ne va pas sortir de l'eau. Ça paraît un peu bizarre, mais vous savez, nos scientifiques font tellement d'expériences. Et c'est au travers de ces expériences, avant, dans les salles de biologie, on disséquait même les grenouilles. Je ne sais plus si ça continue. Mais à mon époque, on disséquait les grenouilles en salle de biologie. Pourquoi cette expérience? Pourquoi on rappelle cette expérience? Parce que justement, cette expérience, elle est similaire à ces deux thématiques, ces deux expressions que je vous ai mises là. Le chrétien thermomètre, il ne fait que subir la température ambiante. Il ne la modifie pas. Il ressemble à notre grenouille qui se laisse cuire dans sa marmite sans réagir. C'est le chrétien thermomètre, n'est-ce pas? Parce que le thermomètre, il ne peut pas agir sur la température. Au contraire, il augmente en fonction de la température. Et le chrétien thermostat, à l'inverse, réagit à la chaleur ambiante en sortant de la bouilloire. Il va même essayer de transformer la température de l'atmosphère. Ce chrétien-là, c'est un chrétien qui reste éveillé, qui sent et qui se laisse conduire par la volonté de Dieu lorsqu'il discerne que c'est là que Dieu l'envoie ou qu'il refuse de s'engager dans des chemins qui ne sont pas la volonté de Dieu parce qu'il sait les discerner. Est-ce que moi je suis un chrétien thermomètre ou un chrétien thermostat? Vous savez, le thermostat, il a cette qualité de pouvoir maintenir la température, de pouvoir la garder et l'influencer. Quelle est la moralité de cette histoire? Si le chrétien n'y prend garde, il s'acclimate à la température ambiante du monde et finit par se dissoudre dans la masse, comme s'il était anesthésié, comme s'il était insensible. Du coup, il perd sa saveur, il perd son identité. Il devient un chrétien fripé, fat. En un mot, un chrétien endormi. Il est hors service dans le royaume de Dieu. Hors service. HS. Non seulement il est hors service dans le royaume de Dieu, mais il est hors circuit aussi pour l'Église. Pour une expression plus sportive, il reste sur la touche. Pour une expression plus française, il compte pour du beurre. Et il ne représente plus un danger, il n'est plus redoutable ni pour l'ennemi de notre foi, ni pour aucune autre résistance vis-à-vis du péché. Parce que de toutes les façons, malheureusement, il ne sait plus discerner. Parce qu'il s'est laissé influencer. C'est pour cela que le texte de Romains 12 nous interpelle. C'est pour ça que le texte de Romains 12 nous parle. Versets 1 à 3. Et dans ce texte, l'apôtre Paul, poussé par Dieu, par le Saint-Esprit, écrit: frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est en laissant cette parole s'imprégner de nos vies, en laissant cette parole prendre toute sa réalité dans nos cœurs, que nous pouvons faire la différence entre des chrétiens qui nous laissons influencer et des chrétiens qui sont capables de continuer à progresser et à grandir dans la foi. Alors, je vais rappeler quelques sujets que nous avons vécus au cours des 3 jours de jeûne et prière. Il m'a semblé vraiment important de les rappeler avec toute l'Église ce dimanche. Pendant ces 3 jours, nous avons parlé de la marche chrétienne. La marche chrétienne, n'est-ce pas? Quand on lit l'Épître aux Éphésiens, et c'est le texte que nous avons lu, il est question de marcher d'une façon digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Marcher d'une façon digne de l'appel d'un chrétien. Marcher comme un chrétien, tout simplement. Si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des chrétiennes, ça paraît tellement évident. Nous devons marcher comme des chrétiens et comme des chrétiennes. Mais quand on marche, en tout cas dans la pensée biblique, c'est de grandir, c'est de progresser, c'est de croître. On ne reste pas au même niveau. On évolue, on grandit dans notre marche chrétienne. Et c'est le thème de la maturité spirituelle. La diapo d'après, la maturité spirituelle. Tu peux mettre la diapo, Eric, s'il te plaît. Cette maturité en Christ implique un changement de vie durable qui commence par la conversion et qui se poursuit par la sanctification. C'est accepter continuellement de renoncer à la conduite passée et de se débarrasser de la vieille nature. C'est se laisser complètement renouveler dans son cœur et dans son esprit. C'est accepter continuellement de vivre selon la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité de la parole de Dieu. Un changement de vie où l'amour est central. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés dans l'amour. Éphésiens 3, 17. Alors, sur ce chemin, on a rappelé pendant ces jours de jeûne qu'il y a au moins 3 thèmes importants que nous devons grandir avec. Le thème de la purification, se purifier, fuir le péché, se détourner du mal, ne pas accepter que le mal continue d'être dans nos habitudes, ne pas accepter que le mal continue d'être dans nos comportements. C'est de dire non. Tout ce que Dieu appelle mal qui me font mal à moi, dans ma relation à Dieu, mais qui me poussent aussi à faire mal à mon frère, je dois dire non, parce que désormais, parce que Dieu est rentré dans ma vie, j'ai cette force pour pouvoir dire non. Avant, sans le Christ, j'étais dominé par le mal. J'étais esclave du péché. Je ne pouvais pas dire non parce que les forces n'étaient pas en moi. Parce que ma nature, sans Dieu, au contraire, elle aime le péché. Elle est attirée par le péché. Elle se soumet au péché. Et la Bible dit que quand nous comprenons cela et que nous nous laissons parler par la parole de Dieu et que nous acceptons que le Christ vienne habiter dans nos cœurs, à partir de ce moment, son esprit nous donne cette force. Son esprit nous donne cette capacité, cette puissance de pouvoir dire non au péché. C'est pour cela que dans toujours cette épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit, vous ne devez plus marcher comme vous marchiez autrefois sans Dieu. Et c'est une invitation à renoncer. Dieu attend que nous, nous décidions à renoncer, que nous fassions le pas. Et lui, il est là pour nous accompagner, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des êtres entiers, totalement responsables. Et Dieu ne nous prend pas pour des robots, ni pour des gens qui n'ont pas une intelligence et une conscience. Au contraire, il nous respecte dans notre dignité. Et c'est pour cela que cette décision de renoncer au mal vient du plus profond de nous-mêmes. Mais Dieu, dans sa grâce, par son esprit, est là pour nous aider. Il nous donne la force d'aller contre ce mal, contre le péché. Si nous tombons dans le péché, tomber, le terme tomber ici, c'est le terme chuter. Je ne connais pas des gens qui chutent expressément. Peut-être les comédiens sur une scène de comédie, ils le font, mais quelqu'un qui voit une pierre qui expressément laisse son pied heurter la pierre et qui tombe, ça paraît bizarre. Donc le terme chuter, c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue, de façon involontaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas calculé de tomber, mais que les circonstances, les événements, malheureusement, nous ont conduits à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. Oui, nous sommes un peu responsables, mais ce n'est pas comme si nous y avions cogité à la maison en sortant en disant « là, je vais faire ça ». Si c'est le cas, ça ne s'appelle pas une chute. Ça s'appelle un péché volontaire. Tu as résolu en ton cœur de pécher, ce n'est pas une chute. Donc quand la Bible dit que le chrétien ne pêche plus, il dit que le chrétien ne s'assoit plus pour concevoir et pour réaliser le péché. Mais si nous péchons, ça veut dire s'il nous arrive, parce que nous sommes encore dans cette tente, hein, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, cette tente, nous sommes encore dans cette chair qui est faible et qui malheureusement est déjà un peu souillé par le péché, et nous sommes attirés aussi par le mal malgré le fait que Christ est en nous. C'est pour ça que le texte de Galates que nous avons étudié la dernière fois dit quoi? Que malheureusement vous êtes sous l'influence de deux principes. Le principe de l'homme sans Dieu, c'est la chair, et le principe de l'homme avec Dieu, c'est l'Esprit Saint. Mais vous ne pouvez pas rester sous les deux influences, parce que vous allez être quoi? Écartelé. Si on est écartelé, le risque c'est qu'on meurt. C'est pour ça que vous devez décider sous quelle influence vous allez marcher. Mais il dit, vu que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a ramené à la vie, c'est tellement naturel que l'influence qui doit être sur votre vie, c'est celle du Saint-Esprit. Donc, ne vous laissez pas conduire par la chair, car les œuvres de la chair sont manifestes, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, lorsque nous tombons, il est attristé. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est triste au travers de la troisième personne de la Trinité. Quand nous tombons dans le mal, il est triste parce qu'il sait que le mal nous fait mal à nous-mêmes d'abord. Et nous sommes ses enfants. Quel parent voit son enfant se faire mal et dit « c'est très bien ». Quand on dit « c'est très bien », ce n'est pas qu'on est content. C'est qu'on a dans le cœur que l'enfant va apprendre la leçon et qu'il ne va plus la répéter. Mais si on dit c'est très bien avec une joie dans le cœur, franchement, je ne sais pas quel type de parent on peut être en ce moment-là. Donc, Dieu est attristé. Il est notre parent. Hein? Il est notre parent. Dieu est notre parent. Dieu est en même temps le symbole du père, mais de la mère. Hein? souvent on dit Dieu, c'est vrai qu'on applique plus le thème du Père, hein, Dieu notre Père, mais on voit aussi dans l'Ancien Testament plusieurs images où Dieu dit, si une femme peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ceux qui sont mes enfants. Donc là, c'est l'image de la mère. Dieu n'abandonne pas son enfant. Dieu est un parent. Et quand nous tombons dans le mal, parce que ça nous fait mal à nous-mêmes, parce que ça lui fait mal aussi, n'est-ce pas? Quand un enfant nous offense, bah, on a mal. On a mal. Et quand nous offensons Dieu, il a mal. Il est attristé. Mais il sait aussi que si nous laissons le mal va nous faire faire du mal à notre prochain. Donc c'est un engrenage qui est terrible. Le péché, ce n'est pas juste un concept. C'est pire qu'un cancer. C'est pire que la peste. Et quand nous prions pour des frères et sœurs qui sont atteints par cette maladie, on prie avec foi parce que pour l'instant, il n'y a pas de remède. On prie avec foi que les cellules cancérigènes ne se développent pas. Et c'est un peu l'image du péché. Quand il est là, si on n'agit pas vite, il gangrène, se développe. Il m'atteint moi, mais il va atteindre aussi mon frère. Et dans la famille, il va atteindre mon épouse, mes enfants. C'est pour ça qu'il faut dire non au péché. C'est pour ça qu'il faut dire non au péché. Si on le laisse rentrer, on brise une digue, on brise un barrage. Et là, les dégâts peuvent être énormes. Et dans nos vies, et dans la vie de ceux que nous aimons. C'est pour ça que nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, frères et sœurs. De nous-mêmes, nous n'y arrivons pas toujours. Mais en comptant sur Dieu, en nous laissant renouveler par notre intelligence, transformée par Dieu, la victoire est là. Lorsque nous faisons ces renoncements, nous sommes donc invités à nous consacrer à Dieu. La consécration, c'est le test de Romains 12 toujours, hein, et d'autres tests, surtout celui d'Éphésiens 5, verset 2 qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Notre exemple, c'est Jésus. C'est pour ça que Dieu a fait cette expérience humaine. Pour nous montrer l'exemple. Pour dire, voilà, vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas faisable. Parce que je suis venu moi-même comme l'un d'entre vous et je l'ai fait. J'ai vécu comme vous. Et j'étais 100% homme. C'est pour ça que Jésus peut dire, je ne suis pas des maîtres qui disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que je fais aussi. Quand il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, bah, il a vécu ça. Il a donné sa vie pour nous. Donc l'exemple, c'est Jésus. Comment je dois aimer? Bah, Jésus l'a dit. Mais non seulement il a dit, mais il a vécu. Il a démontré. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, bénissez vos ennemis. C'est fort ça, hein? Mais il a fait. À la croix. Souvenez. Il aurait pu maudire tous ces Romains qui l'ont. Il aurait pu maudire tous ces chefs juifs qui l'ont. Mais au plus tôt, il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas possible, Seigneur. Ils savent ce qu'ils font. Puisque le texte dit qu'ils se sont concertés pour mentir, pour t'accuser. Puisque l'empereur romain, enfin le gouverneur qui a pris la décision, il a eu du temps de cogiter avant de prendre sa décision. Mais Jésus dit à la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, c'est parce que Jésus dit, ils ne comprennent pas la portée du mal qu'ils ont laissé rentrer en eux. Je te demande de leur pardonner. Donc Jésus ne dit pas quelque chose qui n'est pas réalisable, parce que lui-même, il a montré le chemin. Il a vécu. C'est pour ça qu'il a pu dire aux disciples, l'Esprit de Dieu va venir. C'est lui qui va vous rendre capable de vivre ces choses-là. La consécration, c'est ça. De ne plus livrer nos membres, c'est-à-dire notre être tout entier au péché, mais nous donner totalement à Dieu. Le laisser nous influencer positivement. Contrairement à ce qu'on dit, et je crois personnellement que ce n'est pas vrai, on est toujours influencé par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par une parole. Déjà, on est influencé par nos parents. C'est pour ça que le rôle des parents est trop important dans la vie des enfants. Si les enfants ont une bonne influence de par leurs parents, on le voit, ça continue. Peu importe la difficulté que l'enfant peut avoir, peu importe les indélicatesses, peu importe même si nous n'avons pas arrivé à le... Mais notre influence va porter de fruits à court, à long et à moyen terme, si nous persévérons. L'influence de notre société, n'est-ce pas? On est tous dans des cultures. Et les sociologues disent que les cultures nous façonnent de façon inconsciente. C'est ce qu'on appelle notre vision du monde. Quand on est dans une culture, parce qu'on grandit dedans, on ne réfléchit pas toujours aux mécanismes de cette culture parce qu'on est baigné dedans. Et c'est pour cela que quand on est chrétien, Dieu nous éclaire. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner. C'est cette présence de Dieu qui nous donne finalement de nous éclairer et de faire la distinction dans nos cultures de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas. Avant, nous ne pouvions pas le faire, n'est-ce pas? C'est ça la consécration. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, Romains 12, 1. Là encore, il ne s'agit pas de buts inaccessibles, non pas de simples actes, mais des actes d'obéissance que chaque chrétien est capable d'accomplir avec la force que Dieu lui donne. Et la troisième chose que nous avons vue dans la maturité, c'est la foi. Cette foi qui est cette conviction que Dieu existe, qu'il n'est pas une figure philosophique, non. C'est pour ça que les évangéliques, parce que notre foi est attachée à l'évangile, nous invitons toujours les uns les autres à rencontrer Dieu. Ça s'appelle la conversion. On rencontre Dieu. On laisse Dieu venir nous rencontrer. Et c'est toujours une expérience particulière. Parce qu'il y a un avant et un après dans cette rencontre avec Dieu. Ce Dieu vivant invisible, pur esprit, se laisse rencontrer. Déjà en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Un disciple disait, montre-nous le Père. Il dit, je suis avec vous et tu me demandes de montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en moi et je suis en lui. Et nous sommes un. Donc si quelqu'un vous dit, montrez-moi Dieu, bah, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Cette foi, c'est elle qui nous révèle la justice de Dieu. C'est elle qui nous donne aussi la conviction de marcher par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et le texte dit dans Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La confiance en Dieu, c'est là notre vie. Nous avons confiance en Dieu et nous laissons Dieu conduire nos vies. En deuxième position, donc c'est l'avant-dernier thème, sur le chemin vers la plénitude. Voilà ce que nous avons vu. Sur ce chemin-là, qui est concerné? Bah, tous les chrétiens, tous ceux qui sont enfants de Dieu, selon Éphésiens 5, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de nouveau. Jean chapitre 1 dit, ce n'est pas de la volonté d'un homme, ni de la chair, mais c'est de la volonté de Dieu que nous venons à la vie. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont entendu l'évangile et qui ont compris qu'ils étaient des pécheurs et des pécheresses et que leur salut, que ce soit sur la terre ou dans l'éternité, ne tenait qu'à Jésus-Christ et non pas à leurs œuvres, parce que de toutes les façons, leurs œuvres, elles sont bien fragiles. Elles sont bien fragiles. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ceux qui sont devenus des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et cette plénitude de l'Esprit, c'est une aide exceptionnelle, n'est-ce pas? Que Dieu nous accorde par la troisième personne de la Trinité pour résister, pour tenir bon, pour marcher selon la parole de Dieu. Il nous l'accorde librement, gratuitement. Mais au-delà d'être une aide exceptionnelle, la plénitude, celle qui est durable, au-delà d'être un revêtement de puissance, parce que quelquefois, dès qu'on parle du Saint-Esprit dans plusieurs milieux chrétiens, c'est tout de suite des choses puissantes, des révélations puissantes, des manifestations extraordinaires. Il me semble que non. Il me semble que la puissance du Saint-Esprit se révèle dans le caractère qu'il transforme, dans des hommes et des femmes transformer dans le caractère et qui peuvent, progrès après progrès, manifester le fruit de l'Esprit Saint. C'est tellement, ça c'est un miracle, que nous puissions marcher comme la description de Galates 5, à partir du verset 22, la joie, la paix, l'amabilité, la bienveillance, la maîtrise de soi, le pardon. Que nous puissions marcher selon 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. Tu dis, oulala, 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 ça c'est pas moi ça. Si, c'est toi. C'est toi et moi. Parce que Jésus nous a renouvelés et c'est vers là que nous allons. C'est déjà là que nous sommes en fait. Parce que Éphésiens dit quoi? Car vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà là. Mais seulement, il faut année après année laisser cette réalité se manifester, se réaliser, s'accomplir, prendre tout son importance. Hein? Les mathématiciens disent, il faut que ce soit exponentiel, que ça explose en nous. Que ça explose en nous. Moi, c'est ma prière pour moi et pour l'Église. Pour chacun de vous, pour chacune de nous, que nos vies, je vais le répéter, hein, ça peut-être que vous allez être vaccinés, mais honnêtement, que nos vies de couple soient transformées, que nos caractères dans nos couples soient transformés. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais comme disait un frère de l'Église, il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher la chair. Elle est un obstacle terrible à nos transformations. Le perfectionnement des saints, c'est un texte biblique, c'est un thème biblique, c'est une thématique biblique, que les saints se perfectionnent, hein, comme pour envoyer quelque chose dans son état le plus exquis. Quand on perfectionne quelque chose, c'est le rendre meilleur. Le rendre meilleur année après année. Que nous puissions année après année devenir meilleurs en Jésus-Christ. Et si nous le devenons, Dieu est réjoui, mais bien plus. Nous-mêmes, nous nous faisons du bien. Nous faisons du bien à ceux que nous aimons. Parce qu'ils ont le meilleur de nous-mêmes. N'est-ce pas? Les sportifs, les coachs disent ça toujours aux équipes. Cette deuxième mi-temps, donnez le meilleur de vous-même. Et là, les sportifs sont décuplés. Ils repartent avec une niaque qu'ils ont pris dans cet encouragement, donnez le meilleur, puisez dans votre fond. Il y a des coachs qui sont bons à savoir faire ça. Mais le Jésus, il dit la même chose. Sauf que lui, il ne vous lâche pas au bord du terrain. Il est avec vous sur le terrain. Il est en vous. Amen. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, chacun de vous a reçu de Dieu cette grâce. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Et l'Esprit, il est en nous. Il ne nous possède pas. Donc, ce n'est pas une possession. Hein? Ce n'est pas que nous sommes des êtres remplis ou visités ou habités par quelqu'un. Non. C'est que Dieu a donné désormais à nous d'être sous le principe de l'Esprit de Dieu. Hein? Cette personne de la Trinité est là pour nous aider à marcher sous son principe à lui. Et nous, Dieu nous respecte tellement, il ne viole jamais notre conscience, il ne viole jamais notre personne, jamais. Mais il se tient à côté de nous pour nous encourager. C'est pour ça qu'il dit, pour que vous discerniez. Le discernement, c'est, ah tiens, j'ai compris. J'ai compris. Je n'irai pas là, parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. J'ai compris. Ah, j'irai là, parce que c'est le chemin de Dieu. Peut-être qu'il y a des obstacles, mais c'est là le chemin que Dieu m'envoie. Et il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Au contraire, il a dit que même s'il y a des obstacles, si je suis le bon chemin, il sera avec moi. N'est-ce pas? C'est la vie de tous les jours. Quand on va à l'école, il y a des obstacles. Les épreuves, on appelle ça des épreuves, n'est-ce pas? Les examens, c'est des épreuves, c'est des obstacles. Une épreuve, c'est un obstacle. Et à l'école, et dans l'apprentissage, et dans la formation professionnelle, il y a des épreuves. C'est des obstacles mais on vous équipe pour les franchir, n'est-ce pas? On vous enseigne pour les affronter. Mais la vie chrétienne, c'est aussi ça. Quand on suit le chemin de Dieu, il peut avoir des épreuves, mais Dieu nous a déjà équipés pour les affranchir. Et l'apôtre Paul disait dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, il dit « Je prie pour vous » à partir du verset 14. Il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Verset 19. « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est une prière. Que chacun de nous fasse sienne cette prière-là. Seigneur, je me mets à genoux devant toi afin que tu me donnes par la richesse de ce que tu es puissant, que je sois fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, dans ce que je suis au-dedans de moi. Que je laisse la parole de Dieu me guider. C'est ça, Christ est la parole. Que je laisse la parole de Dieu me guider totalement, toujours et pleinement. En sorte que ma vie, jour après jour, année après année, ressemble à celle de Jésus. Voilà notre objectif. Et si moi, ma vie continue à ressembler à celle de Jésus, c'est mon épouse qui sera la première contente. Ah, franchement, si mon épouse laisse sa vie ressembler à celle de Jésus, ben, je serai le premier heureux de ça. Si mon garçon, qui a l'âge de connaître Jésus, donne sa vie à Dieu et qui continue de ressembler à Jésus, ben je serai un parent très heureux. Si dans notre église, chacun de nous laisse Dieu grandir, nous serons une église heureuse, content de voir comment Dieu agit dans nos vies les uns les autres. Parce que cela nous fera du bien collectivement, mais fera aussi du bien à l'environnement dans lequel nous sommes. Enfin, on a vu la consécration d'un lieu de culte, le temple de l'Éternel, le premier temple bâti par Salomon, qui représentait la gloire de Dieu. Ce qui me marque dans ces passages, c'est 1 Roi chapitre 8, hein, c'est du verset 1 verset 66, tout le chapitre. Quand Salomon commence à prier au verset 22, il dit « Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit les mains vers le ciel et il dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans le ciel, dans les cieux, ni en bas sur la terre. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. » C'est de là qu'on tire l'expression « Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. » Il est fidèle. Sa parole est oui et amen. Quand il promet, il tient promesse. C'est là notre foi doit être en action. Quand Dieu promet, il la tient, sa promesse, toujours. Et le prophète dit, si tu penses que la promesse tarde, attends-la, car certainement, elle va s'accomplir. C'est une question de délai. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il est au-dessus du temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc le temps ne peut pas impacter Dieu. Le temps nous impacte parce que nous sommes des créatures. Mais lui, c'est le créateur. Il est au-delà du temps. C'est pour ça qu'un jour, ça peut être comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Mais lui, il vient toujours au bon moment. Alléluia, toujours au bon moment. Alors, ce temple était un temple à la gloire de Dieu. Où Salomon disait à Dieu, mais poussé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au verset 29, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Ton nom, on l'a chanté ce matin. Là sera mon nom. écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exaucé par toi. C'est un lieu de bénédiction, n'est-ce pas? Verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. De toutes les paroles qu'il a prononcées, aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à ses serviteurs et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. C'est ma prière aussi pour moi et pour chacun d'entre vous, que nous progressions dans cette obéissance à Dieu. C'est quoi le temple finalement? Le temple, certes à l'époque c'était un bâtiment, mais aujourd'hui c'est plus qu'un bâtiment. C'est le rassemblement des enfants de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et là, j'ouvre ma parenthèse. Le temps est parti, mais j'ouvre quand même ma parenthèse. L'église, c'est d'abord notre rassemblement. Ce n'est pas le lieu où nous nous rassemblons. Parce que cette salle, en fait, appartient à la municipalité, n'est-ce pas? Mais nous l'appelons église. Parce que c'est là aussi que nous donnons rendez-vous à Dieu. En tant qu'église rassemblée. Alors, je veux faire une invitation que j'ai déjà faite le mercredi, que chacun de nous prenne soin de cet endroit. Car c'est là que nous rassemblons. Et un frère a déjà lancé cet appel qui a été entendu pour le service dans la maison de Dieu. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous rentrerons encore plus dans le thème du service. Mais prenons soin de la maison de Dieu. Pour peut-être une seule raison. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, qui vient pour la première fois dans une église, lui ne sait pas que l'église, c'est le rassemblement des chrétiens. Pour lui, l'église, c'est le lieu où il est venu. Et le premier contact qu'il va avoir, ce qu'il va découvrir, va l'encourager ou pas. Va lui donner une idée de ce que nous-mêmes nous sommes, si nous respectons. C'est pour ça que quelquefois, et Eric le dit quelquefois, si un dimanche, il n'y a pas de ménage, et qu'on rentre dans cette salle sans ménage, oulala, ce serait très désagréable. Mais c'est même pas ce qui est désagréable qui est le problème. Ça serait un manque de respect pour Dieu. C'est-à-dire qu'on vient le rencontrer dans un endroit qui est souillé parce que c'est sale. Et c'est l'image de notre vie. C'est l'image de ce que nous sommes nous-mêmes. N'est-ce pas? Tu peux mettre la diapo d'après. C'est bon, laisse celle-là. Voilà, c'est l'image de la diapo d'après. Celle d'avant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si le temple de l'Ancien Testament était pris avec soin, avec un service efficace, parce que ça représentait là où le nom de Dieu était invoqué, si aujourd'hui nous devons prendre soin des lieux où nous nous rassemblons, à plus forte raison de nos propres vies, car nos vies sont le temple de Dieu. Dieu veut habiter dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alors que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie. Le Christ, par son esprit, demeure dans tous les croyants vrais, authentiques. Le temple était consacré à Dieu et à une utilisation sainte au service immédiat de Dieu. Nous devrions chaleureusement détester et éviter soigneusement ce qui souillera le temple de Dieu, ce qui prostituera cette maison. Mais on l'a déjà dit, c'est la purification. C'est la consécration, c'est la confiance en Dieu. Alors, as-tu une vision pour ta vie selon Dieu? Je pense que oui. Si tu es chrétien, tu as forcément une vision pour ta vie. Tu veux ressembler à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ben, c'est ça notre. C'est là notre but, hein, c'est vers là que nous allons ressembler à Jésus-Christ. C'est temps, la barre est haute. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. N'est-ce pas? As-tu une vision personnelle pour ta famille, selon la volonté de Dieu? As-tu une vision personnelle pour ce que tu fais dans la vie, pour ton métier, pour ta profession, pour la société? As-tu une vision pour l'Église, l'Église de Créteil? Est-ce que quand chacun de nous vient, est-ce qu'il y a une vision pour cette Église? Est-ce que tu rêves à ce que tu veux que cette Église soit? Est-ce que tu as une vision pour ta place dans l'Église? Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Voilà pour aujourd'hui. S'il y a un texte que je veux laisser, c'est celui que j'ai lu tout à l'heure et qui est à la fin. 1 Rois chapitre 8, 57-58. Que l'Éternel notre Dieu soit avec vous, soit avec nous, comme il a été avec tous les croyants. Ici c'est marqué nos pères, mais c'est ça, c'est tous les croyants d'avant nous. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, donc que nous puissions vivre selon toute la parole de Dieu, selon tous les conseils de la Bible. Prions. Te bénissons, notre Dieu. Merci pour ce temps où nous pouvons nous rappeler ta parole, où d'autres peuvent écouter de façon nouvelle ta parole. C'est ma prière, comme celle de l'apôtre Paul. C'est la prière, je pense, de chacun de mes frères et de mes sœurs, alors que nous sommes là, rassemblés devant toi. Nous voulons continuer de vivre cette vie de grâce que tu nous as accordée, des chrétiens et des chrétiennes qui progressent dans leur foi, dans l'amour et qui aiment. Parce que toi, ton projet de vie, c'est que nos vies soient des vies remplies d'amour, de l'amour de Dieu, selon la parole de Dieu, afin que le monde voit que Dieu existe et que Dieu est un Dieu d'amour. Béni sois-tu dans le nom de ton Fils.